Peut-être y aurait-il des questions dans la salle par rapport à ce débat et aussi aux personnalités que nous avons à la table là. Ce serait peut-être le moment aussi de les poser. Est-ce qu'il y aurait des velléités?
Bonjour. Oui, j'avais une question par rapport au rapport à l'auditoire en tant que musicien d'improvisation, sachant que l'improvisation, enfin les musiques improvisées ont quand même la réputation d'être relativement inaudibles. Oui. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, à mon avis, une partie de l'auditoire qui vient pour être bousculée, pour justement rechercher cette transgression des codes, transgression des règles. Et je me demandais, dans cet axe-là, comment vous vous placiez, par exemple, sur l'espace de la scène. Est-ce que les espaces traditionnels de scène, avec place assise, club de jazz, lumière, lounge, etc., correspondent vraiment à un espace d'improvisation? Voilà.
Alors... Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Moi, je pense que beaucoup de musiques sont inaudibles pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de gens. Déjà, on dit musique improvisée, c'est waouh. On dit jazz, c'est waouh. On dit pibroch, waouh. C'est des trucs, c'est très difficile. Il y a plein de musiques qui peuvent sembler difficiles d'accès. Moi, j'ai un point de vue là-dessus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, exactement la même chose. Quand on est disponible comme public, on peut absolument tout entendre et tout recevoir. L'intérêt du live, je pense, pour le public, c'est de voir les gens en action, qui sont en train de fabriquer de la musique, quoi. Devant nous, c'est l'intérêt de la musique vivante, il est vraiment là. Dans la musique improvisée, il est flagrant, mais il est vrai de toutes les autres musiques. C'est dans ce sens-là que moi j'ai du mal avec toutes ces différences. C'est que je pense que tout ce qui est uniquement improvisé, c'est la même chose que le reste, et la même chose que quand on écoute un concert d'un concerto de Mozart. Mais donc l'intérêt, c'est vraiment de voir les choses se fabriquer, se faire ensemble. Donc à cet égard, on a tous, je pense que vous avez vécu des expériences similaires à moi. Vous vous retrouvez à jouer de la musique complètement improvisée dans un tout petit village de 60 habitants. Il y a 40 personnes qui sont là, vraiment... pas les gens qu'on voit dans avant d'œuvre, par exemple, dans des publics spécialisés, et ça marche du tonnerre. Pourquoi? Parce que on est ensemble à faire le truc. Pourquoi? Parce que les gens qui vous ont fait venir, c'est une assos du coin, c'est des gens qui fabriquent avec vous le concert. Et à ce moment-là, tout le monde est totalement disponible à écouter n'importe quelle musique du moment qu'on l'a fabriquée ensemble. L'organisation du concert, etc. Quoi. Après, savoir s'il y a un lieu donc mieux qu'un autre, moi je crois pas. Je crois que c'est comme pour toutes les musiques. Si tu joues dans un festival un petit peu spécialisé avec un public, comme on dit, averti, etc., et qui se passe dans une grande scène, bien éclairée, ça va être super. Mais si c'est dans un petit café avec tous les gens, enfin, il n'y a pas de spécificité par rapport à ça. Je crois pas. Enfin, je suis sûre.
Moi, je voudrais poser la question aussi. C'est vrai que les liens sociaux sont très importants entre les musiciens qui jouent ensemble et qui improvisent, c'est clair. Mais est-ce que ça n'est aussi pas le rôle des musiciens, quand ils jouent ensemble et qu'ils improvisent ensemble, d'essayer d'établir en tous les cas, un lien social avec le public? Je pense que, quelquefois, j'ai assisté à des concerts de musique improvisée où c'était assez égoïste de la part des musiciens sur scène. Ils n'essayaient pas trop d'avoir un contact avec le public. Et ça fait partie, à mon avis, du métier d'un musicien.
Je pense qu'il y a ceux qui disent, moi je m'exprime, Bon, c'est, bien sûr, c'est légitime, mais ce n'est pas la communication encore. Pour communiquer, il faut s'exprimer, mais en plus, avoir une conscience de, effectivement, c'est des personnes qui sont assises, qui, eux, ne bougent pas, qui écoutent simplement, et donc établir quelque chose qui soit actif entre ceux qui ne bougent pas dans le public. Donc, il ne suffit pas de dire « je m'exprime » et moi, je prends le pied sur scène, et puis le public, pendant ce temps-là, il attend le temps passé. Ça, effectivement, ça fait partie, effectivement, d'une des données.
Oui, mais je pense que ce n'est pas spécifique des musiques improvisées.
Non.
C'est vrai. On pourrait dire la même chose d'un quatuor classique qui viendrait jouer de la musique de chambre, etc., très formelle, dans un endroit où qui serait peut-être pas adapté, et les gens pourraient le recevoir exactement de la même manière. Moi, ce que j'appelle, là où je ferais une petite nuance, j'ai l'impression que c'est une responsabilité du musicien, quelle que soit la musique qu'il joue, de l'adresser à quelqu'un. Moi, c'est comme ça que je transmets cette idée-là. C'est-à-dire que je joue, c'est adressé à quelqu'un. Là, je vous parle, quoi. On n'est pas que en train de se parler entre nous. On se parle, là. Donc, quand on joue, c'est pareil. Si on est, on joue entre nous, on joue avec vous, quoi. Je crois que c'est ça qui fait qu'il y a un lien qui peut s'établir ou pas. Si c'est adressé ou si c'est pas adressé.
Ouais. La question qui peut se poser, c'est qu'en général, pour les œuvres plus classiques, le compositeur a pensé, avant ceux qui jouent, à formaliser de telle façon que l'écoute soit digeste, on peut dire, dans le succès. Alors que parfois, c'est le cas où une improvisation dure pendant 3 quarts d'heure, 50 minutes, non-stop, et effectivement, et l'absence d'une. Vraiment. Après, voilà. Mais ça, c'est. C'est un cas extrême, quoi, mais je pense que beaucoup maintenant. Par contre, positivement, cette fois-ci, je me souviens d'avoir été. Enfin, on m'avait proposé de jouer à la Roque d'Anteron, qui est le temple des pianistes qui jouent Chopin, Chopin, Liszt, Liszt, Chopin, pour changer Chopin et Chopin, et encore Liszt, et Chopin, et Chopin, et Liszt, Liszt, Chopin, 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 Liszt. Bon, enfin, bref, ça dure 3 jours. Et j'ai reçu un coup de fil de France Musique. Oui, est-ce que vous ne voulez pas jouer après-demain à la Roque d'Anteron? Je suis surpris, enfin, je suis un voyou, moi, là, je m'excuse. Mais ah oui, d'accord, mais j'ai un copain avec moi, c'était Michel Etchecopard, un berger basque qui joue avec moi. Il peut venir aussi, mais pas de problème. Mais c'est France Musique qui m'avait invité, hein, c'est pas la Roque d'Anteron. Donc on arrive à la Roque d'Anteron, et il y a Michel qui arrive avec les cloches à brebis, et puis on se présente à l'accueil de la Roque d'Anteron. Je ne dis pas la couleur qu'après, compris les visages à l'accueil. Je dis, mais même nous, on est classique. Je dis, nous aussi, bling, bling. Bon. Et alors, mais alors, vous jouez quoi? On improvise. Mais attends, c'est dans une demi-heure, le direct. Vous improvisez quoi? Bon, on le dira après. Alors, les techniciens de la radio, ils étaient pliés en deux parce qu'ils en avaient ras-le-bol d'écouter Chopin, Liszt, Liszt, Chopin, Chopin, etc. Ils étaient pliés en deux. Et en fin de compte, bien sûr, après, on s'est comme arrangé, on a fait le minutage, etc. Et on a fait des trucs. Et en fin de compte, les gens étaient très contents, même le public était très classique, mais parce que celui qui, pour la 75e fois, joue le même Chopin, mais c'est des zombies, quoi. C'est-à-dire, là, ils avaient deux êtres vivants, quoi. C'est ce qui est important, voilà, deux êtres vivants, et non pas des démonstrateurs de culture, quoi. Et c'est toute la question, d'ailleurs, c'est dans cette action qu'on travaille, bien sûr.
Je crois qu'il y a une autre question. Voilà.
Oui, je voudrais réagir un peu à ce que j'ai entendu et en parlant très, très librement. Je voudrais d'abord revenir un peu sur le concept que j'ai entendu, je crois que c'est Hélène et puis quelqu'un d'autre qui l'a utilisé, peut-être toi-même Philippe, de bienveillance. Et je voudrais un tout petit peu débisounoursiser le concept. Parce que, dans le fond, moi, en tant qu'ethnomusicologue, j'ai pas mal baroudé, m'intéresse beaucoup au jazz. Et j'ai connu tellement de haine dans ce monde de musiciens, y compris chez les grands boppers. Hein. Il fallait manger l'autre. Et si Monk avait été gentil, je crois qu'il n'aurait jamais fait la musique merveilleuse qu'il a faite. Donc je voudrais un tout petit peu rectifier le tir sur ce plan-là. D'ailleurs, en soulignant ce qu'on dit à propos des militaires, vous savez, la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires. Et quelquefois, je me dis, la musique est une chose trop sérieuse pour la laisser aux musiciens. Et donc, c'est un peu ce sens-là que je voudrais. Et reprendre ça. Alors, donc, là, je vais être carrément arrogant, parce que Hélène a bien éclairci à la fin ses propos quand elle a dit il faut faire de la communication avec son public. Mais tout ce que j'ai attendu avant, pas trop finalement. L'expression de soi, voilà, une espèce d'égotisme qui ne me plaît pas trop en fait. Parce que, en pratique, moi, les choses que j'aime, que je découvre et que je traite dans mes études, c'est la situation de joute. Et finalement, la joute, il faut casser la gueule à l'autre. Maintenant, le public, il comprend ce qu'il peut comprendre. Hein. Et quand même, Hélène, tu nous dis, je te tutoie parce que je te connais au moins symboliquement, pas plus que ça, et j'ai entendu le travail que tu fais. Le village de 60 habitants était très content, ça a bien marché parce qu'ils sont sur 60 habitants, il y en avait 40 qui faisaient partie de l'association. C'est pas toi qui as créé le lien, c'est eux qui se sont créés le lien entre eux. Tu as été là, bon, comme tu avais ta contrebasse, c'est formidable. Peut-être que tu aurais joué du violon, ça aurait été bien aussi. Donc, c'est pas que je vais minimiser ton travail, c'est pour le remettre dans son cadre. Ensuite, alors, c'est vrai que tu nous as dit un peu comment tu voyais. Mais sinon, j'avais quand même une question très massive à poser. C'est pour qui jouent les improvisateurs? Et ce n'est pas toujours bien clair. Hein. Et on a oscillé entre un travail sur soi, après un travail pour l'autre, mais dans des conditions qui ne sont pas toujours complètement claires. Ensuite, pour la subversion, parce que finalement, c'était quand même l'objet de ce débat. On n'en a pas beaucoup parlé. Moi, je l'ai connue, la subversion, mais pas du tout là où vous pensez qu'elle est. Parce qu'on dit subversion par rapport à quoi? Alors, on peut dire, ouais, on veut casser les codes sociaux, il y en a marre de la world music, gna gna gna, bon, cette espèce de discours. Bon, d'accord. Moi, j'ai vu ça au niveau des villages. On commence la subversion musicale vers 4 ou 5 heures du matin, en fait, je vais vous dire. C'est quand on en a marre de jouer sa propre musique et on commence à esquinter la musique des autres. Alors, ça, c'est très marrant, parce que ça, j'ai vu ça au Maroc souvent. Et même en Sardaigne, on désaccorde les instruments, on dit on va jouer comme les Aïd Goun, on va jouer comme le visage de Nifay, c'est tous des cons, ils ne savent pas jouer, les voisins c'est toujours des cons, de toute façon ça fait partie du principe général de toutes les provinces. Et alors ils commencent à faire n'importe quoi, et ça c'est de la subversion, parce que c'est une double subversion. On imite les autres, on prend leur place, on se les annexe, et on se fout de leur gueule. Donc ça fait un ensemble de trucs très complexes, et là ça c'est une subversion tout à fait réel, mais très local, très local. Sinon, je veux quand même vous rappeler, pour revenir pour mon premier argument, j'ai des chroniques à votre disposition de meurtres de musiciens, quand même. Ou alors, au moins en Kabylie, en Sardaigne même, dans le sud de la Sardaigne, il n'y a pas si longtemps, dans les années 50, un type qui jouait trop bien, quoi. Donc il y a eu un rival qui l'a tué, et on en a parlé. Aussi un poète, en Corse. C'est plus récent, ça. Et donc c'est un peu pour rétablir cet équilibre et le pour qui, j'ai des réponses qui sont très intrigantes pour vous. Je me suis occupé d'une thèse absolument remarquable d'une fille qui travaillait en Éthiopie du Sud, du centre plutôt, chez des bergers. Et sa vraie problématique qui a duré pendant de nombreuses pages, c'est pour qui les gens jouent-ils ? Chantent-ils ? Ils jouent d'une petite flûte de pas grand-chose et ils chantent des mélodies qui ont l'air très simples, en fait, qui ne le sont pas. Et la réponse est pour les vaches. Ils jouent pour les vaches. Bon, écoute, est-ce que vraiment ça intéresse les vaches ? Et au bout du compte, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait jouer pour ne pas être entendu. Ce qui rend les choses très compliquées. Pourquoi ? Parce que les gens ruminent des chants de vengeance et ils le chantent entre eux ou pour eux. Il ne faut pas que l'autre l'entende, ou certaines doivent l'entendre, mais pas trop, parce que si c'est de la vengeance assumée, on est dans un pays de vendetta terrible, comme souvent chez les bergers, donc il faut en dire, mais pas trop en dire, il faut le dire à quelqu'un qui peut le colporter, pour signaler dans quel état mental vous êtes. Vous allez venger votre frère qui a été tué, ou au contraire lui pardonner, ça passe par la musique. Donc vous voyez, on est dans un climat de grande tension, et on voit qu'on est loin finalement de ces caprices d'improvisateur, on est sur des choses qui sont très importantes. Bon, voilà, je voulais vous lancer ça comme ça. C'est pas du tout. Moi, je respecte tout le travail qui se fait. Mais pour redonner un peu une espèce d'ouverture sur.
Bah, je pense qu'il faut quand même qu'on réponde à pas mal de choses qui ont été dites là. On va se repasser le micro. Bon, d'abord, une première constatation. C'est très clair que, puisque tu me tutoies, je te tutoie, on ne fait pas tout à fait le même métier. Et que tu, sans doute, analyses et parles beaucoup mieux que moi, puisque tu me fais dire des choses que je n'ai pas eu l'impression d'avoir dites. Donc, je me dis que sans doute, il y a tout un endroit où je n'ai pas su exprimer ma pensée, puisque je ne me reconnais pas dans tout ce qui a été dit. Ça, c'est la première chose qui rejoint une deuxième chose aussi, c'est qu'il y a un moment pour qui on joue, comment on joue, comment on fait, gna 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 gna. J'ai envie de dire, bah, puisque c'est ton métier, c'est toi qui en fais l'analyse, mais moi, mon métier, c'est de le faire. Donc moi, je fais ce que je peux, je fais à ma manière, avec les moyens que j'ai et que mes camarades ont autour de moi. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on est dans la pratique, on est dans l'action, et que on n'est pas dans l'analyse perpétuelle de l'action qu'on est en train de faire, quoi. Donc ça, c'est une autre chose. Pour ce qui est du terme de bienveillance, j'entends exactement ce que tu dis. Je l'ai repris parce que c'est Erwan qui l'avait dit. C'est vrai que c'est pas un terme que j'utilise d'habitude. Et j'entends absolument ce que tu dis. Je pense qu'en tout cas, dans pas mal de musique, le fight est assez important. Et dans le jazz, c'est absolument manifeste. Dans le jazz d'une époque et dans un jazz américain, et bebop, etc., c'est absolument évident que les solistes se tirent la bourre. Ça, c'est évident qu'ils sont là pour gagner. Ils sont là pour être le meilleur. Ils sont là pour faire la nique aux copains à côté et pour ramasser les filles à la sortie. Ça, c'est absolument évident. Ça l'est peut-être un petit peu moins, justement, dans une musique qui, après, s'est transformée. Ça l'est peut-être un petit peu moins dans une musique plus européenne, justement. C'est peut-être là qu'il y aurait une différence. J'en sais rien, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais en tout cas, pourquoi pas. Effectivement, je dirais que moi, en tant que musicienne, cette donnée-là ne m'intéresse pas du tout. Moi, foutre la gueule sur la gueule du mec à côté, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ne pas être d'accord avec lui, ça m'intéresse. Et être impoli, ça m'intéresse aussi. Je veux dire que le fait que j'ai parlé de bienveillance, ça ne veut pas dire niaiserie, ça ne veut pas dire platitude, etc. Donc je pense que cette notion-là, moi, ne m'intéresse pas dans la musique. J'aime bien le fait qu'on se bouscule avec bienveillance. Je répète, ce qui ne veut pas dire dans ma bouche niaiserie. Je crois que pour le reste, j'ai assez parlé. Je vais vous laisser répondre.
En fin de compte, c'est-à-dire, je pense qu'une des situations les moins intéressantes, c'est la consensualité. Hein, c'est-à-dire que c'est comme si vous discutez et vous êtes tellement tous d'accord que bon, ben, vous quittez, quoi. Il se passe plus rien. Donc c'est vrai que après, même la chose peut aussi toucher au niveau de l'écriture. Comme j'ai écrit de la musique, donc j'ai un interprète qui joue ma musique. Mais pour ma part, l'interprète ne peut se jouer que lui-même. Même s'il joue ma musique, il ne peut se jouer que lui-même parce que physiquement, il ne peut pas être autre que lui-même. Je ne peux pas être vous, je ne peux pas être un autre. Donc, la seule souhait que j'ai, c'est que les énergies que je lui suggère à travers les bulles que j'aurais écrites, bah, ça peut lui faire fleurir sa propre énergie, quoi. C'est le seul souhait, mais à un moment, je pense qu'effectivement, quand on est sur scène, il y a déjà assez à s'occuper pour réaliser la chose qu'on ne peut pas à la fois disserter sur notre action et en même temps déjà la réaliser. Et ça, je crois que c'est un point effectivement tout à fait OK. Hein.
Moi, j'ai deux choses à dire par rapport à votre intervention. La première, que je trouve vraiment très discutable sur la notion de subversion, qui me rappelle un petit peu des arguments démagogique, quoi, même qu'utilisait ma grand-mère sur moi en me disant ah, tu crois que t'es malheureux, mais il y a des gens plus malheureux que toi, ah, tu crois que t'es subversif, mais il y a des gens plus subversifs. C'est-à-dire que, alors là, vous allez dire, vous êtes pas subversif parce que moi je connais des gens qui tuent pour la musique, moi je connais des gens qui ont tué une famille entière pour la musique, ah ouais, une famille entière, ben moi, le peuple entier. Ouais, c'est un peu une course à l'échalote. Je trouve ça un peu, ouais, vraiment un peu démagogique. C'est prendre un exemple concret pour dire en fait, vous pouvez pas être subversif parce qu'il y a toujours plus subversif que vous. Oui, il y a plus malheureux, il y a des gens qui, bon. Donc ça, ce genre de choses, je trouve pas ça très. Enfin, je comprends tout à fait le principe, mais c'est des principes que je trouve assez démagogiques quelque part. Oui, évidemment, il y a des gens qui meurent pour la musique et nous, on n'est que de piètres musiciens, question d'interpréter ce qu'on est. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour revenir pour qui joue-t-on, c'est une très bonne question qui se pose, effectivement, mais quand on se la pose, ça pose la question, du coup, de la culture de masse, par exemple, c'est ça. Et ils se posent la question pour qui ils vont jouer et du coup, ils font la musique qui correspond aux gens qui attendent ce que les gens... on en a tous les jours des exemples de musique en fait qui s'adresse à la masse. Et en fait, l'objectif de ces musiques-là, c'est de faire de la consommation qui ne va surtout remuer personne, qui va surtout pas amener de sens critique, qui va surtout pas remuer les gens, qui va les laisser bien comme il faut à leur place. Du coup, moi, je me la pose cette question effectivement, mais c'est peut-être plus simple en tout cas de se dire ben, je vais faire les choses le plus sincèrement possible, j'ai des choses à dire parce que je suis acteur de la société et à partir de là il y a des gens en face de moi qui ont un auditoire. Moi, mon objectif à moi, c'est de jouer devant le maximum de gens et de convaincre parce que j'ai un discours, j'ai des choses à dire, je l'ai dit, mais je ne ferai pas n'importe quoi pour les dire et surtout je ne vais pas m'occuper spécialement de savoir à qui je m'adresse et est-ce que par exemple ils vont plutôt préférer du majeur ou du mineur ou est-ce que si je fais ça, parce que là on tombe vraiment dans un sens d'une musique qui est prédéfinie par l'auditeur et pas par l'interprète et ça c'est gênant, je trouve vraiment c'est gênant, même si évidemment je le redis, mon but c'est pas de jouer devant personne ou de faire un truc très personnel, j'ai envie que les gens m'écoutent et m'adresser à un maximum de public quoi. Il se trouve que je suis à l'abri du succès commercial pour l'instant, mais si je peux l'atteindre un jour, je ne me gênerai pas pour le faire.
Voilà, est-ce que tu peux reprendre ta question si tu veux, si tu penses qu'on n'a pas bien compris.
D'abord sur la subversion, j'ai donné un exemple. Je suis pas du tout rentré dans ce que tu me disais avec ta mère et tout ça. Rien à voir. Et non, il y a quand même une ambiguïté. Il faut que vous l'acceptiez sur votre travail de créateur musicien. Puisque moi, je vous ai offert une image modeste. Entre parenthèses, je suis musicien, Hélène, donc ne t'inquiète pas. Du point de vue, je sais aussi ce que c'est que pratiquer la musique, y compris ensemble. Ce n'est pas tellement ça la question. C'est que, autant, il y a un modèle qui est très clair. C'est le olé du flamenco. Bon, tu es un bon flamenqui si tu obtiens un olé. Si tu obtiens un olé, tu es un bon. Si tu obtiens un olé, tu n'es pas terrible. Donc ça, c'est parfaitement clair. On sait que le message, c'est entre des musiciens et un public. Musique indienne, c'est pareil. Oh, oui, tu suis. Bon, l'opéra, les gens applaudissent parce qu'ils ont l'habitude. La Roche d'Anthéron, je partage tout à fait les critiques. On entendra Chopin, toujours le même prélude. On applaudira parce qu'on sait que c'est très virtuose, c'est dur à faire. Tout ça est clair. Dans votre cas, c'est beaucoup moins clair. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas une critique, c'est même pas pour vous mettre en crise, parce que alors on parle d'interrelation entre vous, d'accord, ça vous regarde, mais alors moi je suis pas forcément intéressé par votre interrelation, excuse-moi, je le dis très franchement, j'ai mes problèmes, on l'a d'ailleurs, Hélène l'a dit, elle a ses problèmes aussi, chacun ses problèmes, donc pourquoi je viens vous écouter, c'est parce qu'il se passe quelque chose entre vous et moi, bon. Mais en même temps c'est pas tout à fait clair, parce que si vous étiez vraiment à mon écoute de moi, si pour me satisfaire, vous ne feriez peut-être pas ce que vous faites. Donc voilà la question.
Ça devient compliqué. C'est bizarre ce truc de satisfaire, quoi. Ouais, je ne sais pas si je comprends bien cette notion. Dans satisfaire, moi, je comprends pas bien. Faudrait qu'on soit plus séducteur, par exemple, qu'on essaye de séduire un public potentiel. Je ne comprends pas très bien. Je crois que les musiciens improvisateurs qu'on peut être ensemble et séparément, on va venir sur scène. Comme je l'ai dit, on adresse une musique à un public et on essaye de tisser un lien et ce lien se tissera ou ne se tissera pas, mais on ne peut pas présupposer de qui est ce public, pour qui on joue. Je veux dire, on n'en sait rien. Moi, quelque part, je n'arrive pas bien à comprendre cette histoire parce que tu n'es pas la première personne que j'entends interpeller des musiciens à ce sujet. Mais pour quel public vous jouez? Mais j'ai du mal à comprendre en réalité. C'est vrai, je comprends mal cette question.
Ce matin... Oui, il y a des questions. Ah oui, peut-être on passe aux autres questions, oui.
Excusez-moi, parce que du coup, ça sort complètement du cadre de la discussion juste avant. En vous écoutant, en fait, tout à l'heure, moi, j'ai jamais pensé l'improvisation dans le rapport à la politique et tout ça. Seulement, en vous écoutant, du coup, j'ai repensé à une chose que j'ai eu l'occasion de vivre parce que j'y ai été invitée, moi, qui suis une musicienne qui ne me considère pas comme une musicienne improvisatrice. Une chose qui a été initiée. D'abord dans le centre Bretagne et un peu partout, qu'on a appelé grande loterie, petite loterie. Et j'ai pas envie forcément de raconter mon expérience, mais Hélène, tu connais cette chose-là. Et pour moi, c'était un moment où l'improvisation est devenue vecteur social, politique, pour moi de fait politique, quoi. Et je trouvais que cette expérience-là, pour moi, elle rentre complètement dans le cadre de la thématique, et si tu étais d'accord d'en parler, si tu as envie d'en parler, moi je trouve que c'est un moment en fait qui voilà, par rapport à l'improvisation dans ce cadre-là, je trouvais ça pertinent en fait. Voilà.
Alors pour ceux qui connaissent pas la grande loterie, bah, je fais un peu de pub parce que ça tombe bien, c'est dimanche la grande loterie à Langonnette. C'est une idée que j'ai eu donc il y a 2 ans, ça va être la 3e édition dimanche. Bon, c'est un jeu tout simplement qui m'est venu. En fait, j'ai rien inventé du tout. Je me suis souvenu de soirées. Peut-être qu'Amel y était au tombola des Instants Chevaliers il y a une quinzaine d'années à peu près. Bon, c'est un jeu là pour le coup, une joute amicale et amusante de réunir un certain nombre de musiciens. Et de tirer au sort des noms, enfin en l'occurrence une formule réduite, c'est-à-dire pas 7 ou 10 musiciens ensemble, mais 2, 3, 4. Et on tire un nombre et on tire dans un autre chapeau les noms des musiciens et ils vont tout de suite jouer quelque chose. Voilà. Et ce qui m'a paru évident, vivant donc en Sautre-Bretagne depuis quelques années, et plus à Montreuil, aux Instants Chavirés, par exemple, où il y avait un public très averti, on peut dire, de musique improvisée, etc. Là, moi, ce qui me semblait vraiment important, aussi effectivement socialement, à tout égard, c'est de mélanger absolument tous les musiciens qu'il y avait là. C'est-à-dire des musiciens de musique improvisée, mais des musiciens de musique traditionnelle. J'aurais rêvé qu'il y ait aussi des musiciens classiques, mais bon, en tout cas, jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Et puis aussi des musiciens de générations différentes. Parce que, enfin, c'est une question moi qui me interpelle beaucoup. Je ressens, peut-être vous ne le ressentez pas, mais moi je le ressens, un clivage générationnel qui me pose problème. Voilà, il y a les jeunes, les moins jeunes, les vieux, enfin bon, tout ça, et on joue pas beaucoup ensemble. Tout ça est très cloisonné. Donc en fait, l'idée de cette grande loterie, c'était ça. Et effectivement, ça, dès la première édition, ça a été assez frappant de voir l'importance que ça a eu pour beaucoup de musiciens jeunes et moins jeunes de vivre cette expérience. En dehors du fait que voilà, c'est drôle, quoi. C'est quand même une loterie, il n'y a pas l'enjeu n'est pas c'est pas grave, on n'est pas sur une grande scène comme ici au Quartz, si on devait faire ça devant 800 personnes, on pourrait, là voilà, il y a on est quand même entre nous, on peut faire cette critique. Mais bon, voilà, le public habitué de cette salle est là, et est là nombreux, parce que justement, il voit tous les processus. Il voit le flip total des musiciens avant les tirages. Et ça, il y en a qui peuvent en témoigner. C'était la première édition, extrêmement drôle de voir tous les musiciens jeunes et moins jeunes retenir leur souffle avant chaque tirage, genre « Ah, pas moi, pas moi, pas moi. Ah, oups, c'est pas moi, ça sera la prochaine fois. » Enfin, c'était vraiment déjà... vraiment. Donc, le public, il voit ça. Il voit déjà que les musiciens, ils ont le stress. Et après, il voit... bah ouais, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais c'est pas grave. Et on continue, et c'est une expérience qui a été qui se renouvelle maintenant chaque année, et la direction est donnée à chaque fois à un musicien différent. Cette année, c'est Étienne Cabaret qui mène la grande loterie.
Voilà, je voudrais savoir s'il y a d'autres questions, je crois.
Oui, bonjour tout le monde. Donc Florian Baron, je suis musicien. Et voilà, je voulais répondre à Monsieur Lorta Jacob aussi un petit peu. La musique est une chose trop sérieuse pour être laissée aux musiciens. C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose, évidemment. C'est normal que toute la société puisse se saisir du sujet de ce qu'est la musique. Moi, j'ai une autre petite phrase qui me vient d'un ami qui dit, en rigolant, mais la musicologie est à la musique ce que la gynécologie est à l'amour. Effectivement, on peut disserter sur l'amour, on peut demander à tous les philosophes, tous les scientifiques de disséquer ce qu'est l'amour. L'amour, il peut être sanglant, il peut être effectivement très bienveillant. Définir à quoi bon l'amour, pour qui l'amour, je pense que personne ne va être vraiment en capacité de le faire. Quand on parle d'improvisation, on parle, je sors de la, peut-être un tout petit peu de cette métaphore de l'amour, mais il y en a plein d'autres. La musique, c'est un langage, l'improvisation, on en fait en permanence au moment où on parle. Et parler de l'absence ou de la présence d'improvisation, alors qu'on est tous en train d'improviser tout ce qu'on dit actuellement, il y a des moments où ça frise le ridicule. C'est hyper intéressant de se poser ces questions-là, mais il faut pas laisser une trop grande part, à mon avis, au cartésianisme dans la définition de ce qu'est une musique. La musique, pour moi, elle s'adresse aussi à notre cerveau droit, enfin notre cerveau émotif, notre cerveau émotionnel. Je pense que c'est pas pour rien que Platon disait que pour contrôler un peuple, il fallait commencer par contrôler sa musique. Je crois qu'aujourd'hui, justement, le bisounoursum, ou le fait d'être bisounours, d'essayer de créer ensemble, c'est subversif. C'est profondément subversif de faire ensemble et de vouloir faire justement dans la bienveillance, parce que c'est pas du tout ce qu'on nous montre du monde actuellement. Et que je crois pas que subversion rime avec violence, et je crois pas que la subversion soit un sens politique en soi. La subversion, elle mène vers quelque chose. Quand on est subversif, on s'oppose à un modèle, mais pour aller vers un autre. Et donc voilà, c'était ce que j'avais envie de dire là-dessus.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. On va devoir quitter cette salle. Peut-être une dernière question, mais rapide alors.
Pardon, non, je ne voudrais pas être longue. Quand même, parlons un petit peu de l'auditeur, du public pour lequel on fait de la musique. Moi, ça m'intéresse, l'auditeur, parce que c'est un peu mon travail et que je reçois des mails d'auditeurs qui me disent « mais il y en a marre de ces bruits de chasse d'eau quand je fais entendre de la musique improvisée libre, pardon Hélène, enfin de la musique improvisée qui ne fait pas référence à des choses. » Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis d'autres qui sont emballés. Alors, qu'est-ce que cherchent les musiciens? Mais c'est valable, moi je pense, Bernard, pour n'importe quel type de musicien. C'est-à-dire qu'un musicien qui va jouer le concerto de Mozart, salle Pleyel, il s'adresse à qui? Pour qui fait-il cette musique qui est morte, entre guillemets, qui est du passé, qui est muséifiée? Il la revit, il la revisite, il la réinterprète. Alors c'est sa vision de cette musique. Mais... voilà, alors il y a un abonnement Salle Pleyel, mais c'est important de se poser la question de ce public-là, et moi j'arrête pas de me la poser, parce qu'on me dit, par exemple sur France Musique, mais arrête avec tes musiques de sauvage ou avec tes musiques qui sont complètement no border, d'ailleurs. La musique, c'est la musique classique. Bon, alors il faut quand même se poser le problème de cet auditoire. Pourquoi est-ce que c'est plus justifié de jouer Mozart aujourd'hui que de jouer les musiques improvisées ou d'improviser en public? Improviser en public, alors là, il y a plein de réponses possibles, mais moi, en tant qu'auditrice, ce qui me touche ou ce qui m'amène vers ces musiques, c'est que j'ai envie d'être étonnée au concert, comme devant une œuvre d'art, comme devant un tableau. Alors, je veux dire, là, c'est un débat immense, hein, c'est la modernité, la tradition, c'est tout ça, c'est l'art contemporain, c'est, là, on enfonce des portes ouvertes, on n'arrête pas de tourner autour du pot, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui ont envie de retrouver des œuvres du passé, donc d'être confortablement installés dans une réécoute de ce qu'ils connaissent déjà, mais dans une autre version, etc. Bon, ça, c'est tout le répertoire qui est rejoué à satiété, sur les scènes, toutes les scènes, et puis il y a des auditeurs qui viennent au concert pour vivre un moment différent, pour découvrir, pour peut-être, ça ne se passera pas, mais si ça se passe, tant mieux, pour peut-être être secoué, changer complètement ses codes d'écoute. Moi, je fais partie de ces auditeurs-là, et je pense qu'il y en a plein ici, et voilà, c'est pour ça qu'ils font cette musique-là, je crois. Enfin, je pense. C'est une de mes réponses.
Voilà, merci beaucoup, Anne, et je crois qu'on va clôturer ces débats. Voilà. Merci beaucoup.
Un, deux. Voilà. Nous allons conclure, Bernard Lorta-Jacob et moi-même, ce moment en quelques petites minutes. Je pense que vous pouvez continuer des réflexions fructueuses au bar. C'est en général là que ça se fait plus que dans les salles de colloque. Et c'est aussi pour ça, et je rejoindrai ce qu'a dit Saïd tout à l'heure, qu'on ne faut pas qu'on parle de musique, mais je suis sûr qu'il parle de sa musique quelque part, quelquefois, quand il est en train de discuter avec des gens d'une manière informelle. Donc l'informalité, si vous la préférez, n'hésitez pas à l'utiliser, elle vous servira. Je profite, c'est bien le pouvoir comme ça quand on vous dit vous allez participer à la conclusion. Je laisserai la parole à Bernard Lorta-Jacob qui conclura définitivement. Normalement, moi, juste ce que je devais faire, c'était de dire merci d'être venu, à l'année prochaine. L'année prochaine, c'est Drôme qui travaillera sur l'organisation du colloque. L'année prochaine, c'est Drôme qui travaillera sur la transmission des musiques de tradition orale avec de multiples exemples, etc. Donc, je le dis en amont, ce qui permettra à Bernard Lorta-Jacob de conclure de la manière dont il le souhaitera. Je n'aurais plus à parler après lui. Je souhaitais quand même vous faire voir et écouter cette vidéo que vous n'avez pas vue ce matin d'un improvisateur turc de Zurna. C'est pareil, je voudrais pas qu'on prenne ça pour une conclusion et qu'on dise l'improvisation modale, c'est la conclusion. Alors, j'ai entendu énormément de choses sur la liberté, sur la personnalité de l'improvisation. Peut-être que dans la musique modale, nous sommes les Georges Perec de l'improvisation libre. C'est-à-dire que nous nous donnons des règles qui nous empêchent d'aller là où notre pur libre arbitre nous laisserait aller. Enfin, je dis nous, je suis complètement idiot parce que je ne suis pas improvisateur. Je me sens musicien modal, mais le musicien modal se donne ses limites. Donc peut-être que ces limites sont à prendre comme un élément d'une très grande modernité. On a parlé du rapport entre l'improvisateur et son public. La petite vidéo qu'on va voir, que j'ai demandé à Romain de couper en deux, donc vous aurez malheureusement cette vidéo coupée en deux, m'a été proposé par Gabi Kerdoncuf. C'est une improvisation de Zurna dans le Magami Jazz qui se trouve dans le cadre d'une cérémonie de circoncision. À un moment de la cérémonie, je ne connais pas vraiment comment les choses se passent, mais les âmes sensibles à l'équilibre homme-femme ne s'offusquent pas, n'est-ce pas Anne, car il y a extrêmement peu de femmes sur cette vidéo. Mais donc il fallait le dire. Et vous allez voir que à un moment donné, donc l'improvisateur commence à développer un mode, puis s'arrête sur la note de base de jazz, et là le public masculin commence à sentir les choses venir. Après, vous allez voir, au bout de quelques secondes, il donne quelques directives au joueur de clavier qui l'accompagne. Et Bernard s'en va déjà ? Non ? Ah oui, tu veux la voir. D'accord, ok. Donne quelques directives au gars qui l'accompagne en disant « Tu bouges pas, ça dure 10 minutes, mais là, je l'ai coupé. » Et au bout d'un moment, le monde s'émeut avec des dimensions que peut-être malheureusement, nous ne vivons pas assez souvent ici. Merci Romain. Donc, Halil Terek, je vais l'appeler comme ça. Thank you. Vous avez vu les billets, maintenant. Vous voyez les larmes du père. Il n'y a pas que l'argent. L'argent est juste le fait que on aime l'artiste et son interprétation. Les larmes pour un barbu moustachu turc ne sont pas des choses extrêmement courantes qu'on va présenter. Merci. Je vais laisser la parole à Bernard Lorta Jacob pour cette conclusion. Mais j'avais envie quand même de vous présenter cette vidéo qui me semble vraiment très marquante de ce qu'est l'improvisation et d'où elle peut amener les gens. Je ne dis pas que le lendemain matin, les gens vont pas être un peu tristes d'avoir dépensé tant d'argent, mais sur le moment, c'était tellement bien.
Merci Eric, c'est, en effet c'est tellement parlant quoi. En fait ça correspond exactement à ce que je pense, c'est que là il y a une clarté folle entre le travail du musicien, il s'agit de récupérer de l'argent quoi, et l'ostension, le côté ostentatoire de la chose qui est fondamentale dans le rapport, c'est-à-dire qu'on crée du lien social et là il est plus qu'apparent. Donc, voilà. Bon, tout à l'heure j'ai aucune raison de faire une conclusion de quoi que ce soit, je voulais juste remettre un petit peu les choses à leur place, comme disait Johnny Hallyday. Et donc, il me semble qu'il ne faudrait quand même pas enfermer le débat entre, d'une part, les musiciens et les musicologues. Ça, je ne l'accepte pas. Je l'accepte d'autant moins que je considère d'abord comme musicien et également comme musicologue. Deuxièmement, ce n'est pas la peine de faire des débats si on refuse le débat intellectuel. Donc, il me semble assez normal de discuter entre gens de bonne compagnie sur des points de vue. Troisièmement, je pense qu'il ne faut pas non plus redire les trucs avec ceux qui improvisent dans une liberté totale, comme des ovnis sur la planète, etc. Et puis les autres qui comprennent rien. Bon, alors tout ça, ce sont des choses qui sont tout à fait contemporaines sur lesquelles il faut réagir. Je voudrais quand même rappeler, enfin, par rapport à la dernière observation. Les codes dont on parle, d'ailleurs le terme est mauvais, il est condamné maintenant par tous les sémioticiens, c'est pas tout à fait des codes. Ils ont les habitudes d'écoute, la façon, les stratégies d'écoute sont des choses relativement rigides. Et là, c'est là le musicologue, l'ethnomusicologue qui parle. C'est-à-dire que moi, vous me faites... Là, j'ai aucun problème avec les musiques que m'a fait écouter Eric. Aucun problème, je suis rentré tout de suite, j'étais prêt à donner $50. Mais vraiment prêt à donner $50. D'une part, parce qu'en tant qu'ethnologue, j'ai le mimétisme facile. Si les gens donnent, je donne. Bon. Et deuxièmement, cette musique, ce mec, il suffit de 4 secondes pour voir qu'il vous crève à la gueule, quoi. Il vous saute à la gueule. Bon, voilà. Alors, voilà un peu les données du problème. Maintenant, le problème de l'improvisation du point de vue de la musicologie est un vrai problème. Très riche. J'ai commencé à l'aborder ce matin. Peut-être que vous me donnerez l'occasion de continuer. Parce que les musicologues, justement, que je défendrai pas d'ailleurs en l'occurrence, veulent absolument trouver des modèles. Voilà. Et les musiciens disent, ah, je nous embête parce que justement ce qu'on veut c'est casser des modèles. Par ailleurs, vous voulez traiter un problème, c'est comme les types qui veulent traiter de l'existence des papillons en faisant des collections de papillons. Bon, évidemment, si vous faites des collections de papillons, vous ne saurez jamais comment on vole un papillon. Donc voilà un peu la question. Les musicologues sont très désarmés pour saisir des processus. Et ces processus sont très riches. Tout à l'heure, on a parlé de conversation. Ça me plaît bien, cette idée de conversation. C'est, je crois, Hélène qui parlait. C'est plus que la conversation. Parce que la conversation a des codes. Finalement, le langage est beaucoup moins riche que la musique. Je pense qu'il peut se passer beaucoup plus de choses dans la musique, dans les échanges. Et voilà. Je ne parle pas du monologue du musicien, que ce soit dans sa salle de bain, quand il chante, que ce soit n'importe où, ou pour régler ses propres questions. Ça, c'est tout à fait une autre question. Mais disons... Jusqu'où peut-on aller? Pourquoi est-ce qu'il se passe tant de choses si importantes dans ce qu'on fait de la musique? J'ai vécu, grâce à Brest, ces 48 dernières heures, j'ai vécu avec mes amis sardes, qui sont arrivés dans un climat de nervosité terrible à Brest. Et je ne vous raconte pas la vie de village. Il y en a un qui ne voulait pas venir, l'autre, sa femme, ne voulait pas le laisser partir. Le troisième, il ne voulait pas chanter avec celui-là. Le quatrième, donc je suis arrivé dans un climat de tiraillement considérable. Et Brest nous a sauvés. On s'est quitté tout à l'heure, on pleurait comme là. Voilà. On pleurait parce que Brest leur a donné l'occasion de montrer qu'ils étaient quelque chose ensemble. Donc l'idée du concert se déplace en fait. c'est pas tellement qu'ils vous ont plu ou plus, pas plu, j'ai l'impression que le concert a plu, c'est que pour eux, ça a été fondamental pour rebondir et recontinuer mieux leur existence. Ça leur a donné confiance, ça a créé de la paix dans un village qui est en guerre, parce qu'il y a des homicides chaque année dans ce village. Et donc là, on a réglé des problèmes fondamentaux. Et c'est pour ça que ma musicologie à moi, c'est pas une musicologie comme on me l'a dit là, je me suis trouvé vraiment ridiculisé par deux, trois observations. J'ai jamais fait cette musicologie de merde là qui consiste à relever des notes, mais c'est plutôt des comportements, des processus, des choses qui touchent tout à fait ce qu'une pratique musicale vous apporte de façon continue. Donc je suis pour une pacification complète entre les musicologues et les musiens, à condition que les musiciens ne veuillent pas. D'abord, s'ils font des colloques, il faut qu'ils acceptent le débat. Et deuxièmement, que les musicologues, quelquefois, ne sont pas aussi musiciens qu'on le souhaiterait, fassent aussi une pratique musicale à la hauteur de leur savoir ou de leur supposé savoir. Voilà.
Voilà. Donc, je pense que c'était la conclusion apaisante qui nous amène à glisser vers l'apéritif avant que nous nous retrouvions sur les différentes scènes du Quartz et du Vauban. Merci à vous. À l'année prochaine.